sometimes I wonder about you. Are you racing or watching?
La dispute. Littérature. Arnaud Laporte.
Autour de moi ce soir, Lucille Como, Grégoire Leménager et Florent Georgescu pour parler ensemble de Un soir au paradis de Lucia Berlin chez Grasset, Pourquoi écrire de Philip Roth chez Gallimard, 15 causeries en Chine de Jean-Marie Gustave Le Clésio chez Gallimard, et puis il y aura un coup de cœur de Florent Georgescu pour La femme du capitaine, guerre, amour et race, dans l'Amérique du 19e siècle, c'est-à-dire de Martha Hodes chez Anacarsis. Et nous ouvrons cette dispute avec Un soir au paradis de Lucia Berlin, publié chez Grasset, dans une traduction de Valérie Malfoy. Il y a 2 ans, nous découvrions de façon posthume Lucia Berlin, née en 1936 en Alaska, morte en 2004 en Californie, Marina Del Rey. Elle a exercé de nombreux métiers, elle a été mariée 3 fois, elle a eu 4 enfants, 4 garçons. Elle a commencé à publier tardivement, 1981, elle avait 45 ans, donc un premier recueil de nouvelles, même si, en fait, elle avait commencé à écrire dès les années 60, mais le succès très grand n'est venu qu'en 2015, après sa mort, donc avec une anthologie conçue par Stephen Emerson, traduit en France sous le titre « Manuel à l'usage des femmes de ménage », publié donc chez Grasset en 2017, déjà dans une traduction de Valérie Malfoy. Une nouvelle salve de nouvelles nous arrive donc à présent. Alors, sans que, à moins que ça m'ait échappé, sans que cette sélection ne soit expliquée, alors Jeff Berlin, l'un des fils de Lucia, écrit les remerciements en fin de volume. Un autre, d'ailleurs mort peu après sa mère, signe l'introduction. Est-ce que c'est Jeff, celui qui fait les remerciements, qui a choisi ces nouvelles? Est-ce qu'il y a une raison à cela? Est-ce que quelqu'un a une information sur cette question dans la mine dubitative de mes camarades, Florent Georgescu?
Plutôt un objet de plainte, je ne comprends pas. Il n'y a pas non plus de date.
Alors, non, on ne sait pas où elles ont été publiées ou à quelle date.
Alors, on peut se référer au copyright, à la page en question, mais on voit qu'il y a plusieurs années de publication. Quant aux années d'écriture, on n'a aucune idée. Tout cela flotte un peu. On voit bien qu'il y a, on voit bien qu'elles sont étalées dans le temps, qu'il y a des nouvelles de jeunesse, et ça serait très étrange, intéressant de savoir quand elles ont été écrites. Donc c'est assez frustrant. Oui.
Lucille Como, vous avez une piste?
Non, mais on y reviendra peut-être. Mais je trouve ça justement assez intéressant qu'il n'y ait pas de date et qu'on sache pas exactement de quelle nature est le lien entre les.
D'accord, on y reviendra. Alors, première impression sur ce livre, justement, Lucille Como.
C'est un texte magnifique, une écriture très particulière qui désarçonne au départ, je dirais.
Florent Georgescu.
Pour moi, c'est d'abord la découverte très séduisante d'un tempérament, d'une vie assez extraordinaire, d'une liberté plutôt dingue. Je ne suis pas tout à fait convaincu par l'idée que ce serait la découverte aussi d'un grand auteur.
Grégoire Leménager.
Sur le fond, c'est un manuel à l'usage des gens qui croient au paradis, alors qu'ils sont incapables d'y vivre très longtemps. Et ma foi, ça fait beaucoup de monde, donc ça fait beaucoup de lecteurs potentiels, c'est très bien.
On va écouter un court extrait d'une des nouvelles de ce recueil, lecture faite par Joséphine Dumoulin.
Ayant renouvelé les stocks de tzatziki, chips et guacamole, j'allais prendre l'air sur les marches. Il n'y avait personne d'autre dehors et j'étais trop déprimée pour appeler quelqu'un et lui faire admirer l'extraordinaire coucher de soleil. Existe-t-il un mot pour le contraire de déjà vu? Ou pour décrire comment j'ai vu en flèche mon avenir? J'ai vu que je resterais à l'Albuquerque National Bank et que Bernie décrocherait son doctorat et continuerait à peindre de mauvais tableaux et à réaliser des poteries salissantes qui lui vaudraient d'être titularisées. Nous aurions 2 filles, dont l'une deviendrait dentiste et l'autre cocaïnomane. Enfin, bien entendu, je ne savais pas tout cela, mais j'ai vu que la suite ne serait pas facile, et que dans un avenir lointain, Bernie me quitterait sans doute pour l'une de ses étudiantes, et que j'en serais anéantie mais que je retournerai ensuite à la fac et qu'à la cinquantaine, je réaliserai enfin ce que j'avais envie de faire, mais que je serai fatiguée.
Alors c'est évidemment pas facile de prendre un extrait d'une des nouvelles de Lucia Berlini, mais il me semble quand même que peut-être, alors ça vous ira, Lucille Gaumeau, pour commencer, parce qu'il y a quand même, il me semble, pas mal du sel de Lucia Berlini dans ce court extrait.
Oui, le fils de Lucia Berlini, dans l'avant-propos, décrit quelque chose qui est une des matrices, enfin un des fonctionnements des textes. C'est l'articulation entre sa vie, qui est, comme vous l'avez décrit tout à l'heure, Arnaud, une vie assez étonnante, faite de multiples déplacements et ses quatre enfants qu'elle a quasiment élevés seule, et aussi des sauts, comme seuls les Américains en ont fait dans ces années-là, des sauts sociologiques, qu'on peut dire, qui sont quand même assez incroyables entre des petits boulots et l'université. Et tout ça se fait par le moyen de textes dont on peut croire au départ, moi j'avais aucune idée, je lis toujours sans rien lire, ni les préfaces, ni les quatrièmes de couverture.
Nous sommes
au
d'accord.
départ, on peut croire que les titres sont des titres de chapitres, parce que ça commence par une nouvelle où le jeu, c'est souvent à la première personne, est enfant, puis après adolescent. On peut imaginer
avec
que c'est
même,
une vraie matière.
La même copine.
Tout à fait. Oups. Une matière autobiographique tout à fait classique, dans un sens chronologique. De fait, ça change assez vite, puisque on n'est pas dans une autobiographie classique au sens justement chronologique, mais plutôt dans un thème et variation. C'est-à-dire que tout fonctionne, tout circule autour de plusieurs thèmes, de plusieurs fonctionnements, qui sont parfois des fonctionnements narratologiques, parfois juste des petits motifs, et qui se répètent assez inlassablement. Ça peut peut-être créer un effet de trop-plein, parce que les personnages changent de nom, les situations changent un tout petit peu, la couleur d'une maison, la végétation autour, mais on gravite toujours autour de la question du foyer, de ce que c'est que faire foyer malgré toutes les difficultés qu'on peut rencontrer pour faire foyer. Et ces difficultés-là, elles sont très souvent un peu les mêmes, des conditions matérielles de vie, surtout quand on vit dans une forme de bohème dans les années 50 et 60 avec des artistes. La lâcheté des hommes, tous les hommes qui entourent les personnages féminins manquent à leurs engagements ou manquent à leurs promesses. Et puis, ça va aussi à très très petite échelle, à des toutes petites choses. Une tasse de chocolat chaud qu'on prend le soir, par exemple, c'est un des motifs qui revient en permanence, une végétation, le matériau des maisons dans lesquelles on vit. Tout ça forme une sorte de grammaire, vraiment de grammaire littéraire, qui ne se laisse pas prendre, à appréhender très facilement. Moi, quand j'ai lu au départ, je lis presque peut-être trop vite, mais je ne comprenais pas de quoi il s'agissait. Et j'ai dû ralentir, je pense, le rythme de ma lecture, ralentir vraiment mon attention au texte, parce que c'est un texte qui fonctionne par ellipse, par effet de notation, par toute petite mention. On imagine des effets un peu d'indirect libre qui prennent en charge la parole avec ironie des personnes autour. Tout ça, si on ne ralentit pas son rythme de lecture, on le rate complètement. Et je pense que c'est là qu'est la subtilité des textes de Lucia Berlini. Et c'est surtout là où naît le drame. C'est, moi, je pense, très profondément dramatique.
Flora Georgescu, alors.
Alors moi, je n'ai pas lu le premier tome paru en français, donc je ne sais pas. Vous pourrez peut-être me renseigner sur les différences éventuelles entre ces recueils, parce que je ne sais pas s'il y a là les meilleurs textes de Berlini, tout simplement.
Moi, je répondrai tout de suite qu'ils sont dans le premier volume. Hein.
Oui.
Oui, vraiment. Parce que je ne sais pas ce qu'en pensent mes camarades qui ont lu le manuel.
Quand j'ai lu le degré d'enthousiasme que suscitait ce premier recueil,
si
j'ai un peu de mal.
À
penser
en que,
oui,
la que, plupart du
c'est
temps.
La même chose. Parce que ce que décrit très bien, ce que vous décrivez très bien, est un art extrêmement fragile et qui ne tient pas toujours dans le texte. C'est en effet un art qui est fondé sur l'ellipse. Elle veut jouer avec ça. Je suis pas sûr qu'elle y arrive toujours. Personnellement, je me remets peut-être un peu moins en cause que vous, Lucille, quand je m'aperçois que je perds un peu le texte. Je ne suis pas sûr que ce soit faute d'attention de ma part. Je pense qu'il y a une manière chez elle d'aller si loin dans l'ellipse, dans la volonté de saisir simplement les notations qui devraient faire mouche, les notations qui portent à elle seule parfois le monde, le regard entier qu'elle veut mettre dans le texte. Sa manière de faire ces notations là peuvent enfin elle peut le faire sans assez de relief, sans assez de rythme, et je personnellement je trouve que le texte se perd plus que je ne perds l'attention très souvent au fond. Ce qui devrait être explosif même légèrement, et parfois elle atteint ça, et là il y a quelque chose de très beau, donc qui laisse deviner des textes plus forts dans son œuvre. Ce qui devrait exploser parfois s'éteint et devient en fait de l'indifférence. Parfois je trouve que ce qui passe dans le texte passe un peu loin, un peu dans un brouillard qui finit moi par me lasser, et beaucoup de ces textes quand même sont un peu tombés des mains. Je pense qu'il y a cette petite nouvelle qui a de belles choses sur là. Pardon, sur ce coureur qui automobile ou moto,
le motard,
motard
qui meurt, tue à la dernière course, qui gagne sa dernière course et se tue.
Si vous voyez la manière dont il meurt, enfin dont la nouvelle de sa mort apparaît dans le texte, plus exactement, je pense que c'est typique du genre d'effet qu'elle recherche et qu'elle rate ici.
Moi je trouve très réussi.
Ça passe, c'est juste annoncé. Très platement, je vois très bien l'intention d'être dans un monde quasi magique où la mort fait partie et entre dans le rythme banal de la vie, mais ouais. Je trouve que ça finit dans une platitude en réalité qui finit par m'ennuyer.
Bon, voilà. Je reviendrai peut-être sur ce texte-là précisément, mais d'abord Grégoire Le Ménager sur ce recueil de Lucia Berlin.
Mais c'est vrai que ça laisse le sentiment d'avoir à faire un recueil forcément inégal. Il y a 22 nouvelles là-dedans. De temps en temps, il y en a une qu'on trouve magnifique. Et puis celle d'après, on s'y perd un peu. Je crois que c'est parce que le recueil de nouvelles, déjà, réclame un renouvellement de l'attention systématiquement. Enfin, c'est beaucoup plus fatigant. On demande beaucoup plus d'efforts au lecteur de lire un recueil de nouvelles, surtout de manière continue, comme j'ai essayé de le faire avant cette émission, que de lire un roman. Ensuite, je pense que quand même, il y a quelque chose que vous dites qui est juste, c'est qu'il y a à la fois une grosse densité, je trouve, dans ces textes-là, et une forme de désinvolture ou de tentative de désinvolture, en particulier dans les effets de chute. Ils sont généralement pas très appuyés, c'est l'air de rien. La clé de la nouvelle, elle est donnée l'air de rien, comme ça. Alors, quelquefois, on passe un peu à côté.
C'est un peu toujours de la même forme, les chutes. C'est toujours.
Ouais, ça.
Il y a des désinvolture assez affichée. Il y en a pas mal qui tombent de la même manière.
Ouais, mais j'ai pas eu le sentiment d'avoir affaire à des tics d'écriture si marqués que ça, mais en revanche, il y a vraiment ça. Et au bout du compte, moi, j'ai l'impression de pas avoir lu un livre, mais d'avoir écouté un disque de jazz avec des thèmes qui reviennent, qui sont très, très obsessionnels, très obsédants. Et puis, ce côté des changements de rythme aussi, très forts dans la narration, avec des effets d'accélération très brutaux, très inattendus, avec des petites dissonances qui surprennent un peu, avec un côté quelquefois un peu fébrile, un peu fiévreux, quelquefois alangui, avec une tendance au blues quand même qui est très généralisée aussi chez les personnages, en particulier chez les personnages féminins qui sont tous des doubles de il y a un effet de kaléidoscope. Et c'est vrai que la petite préface du fils plus le choix d'ordonner les nouvelles de cette manière là en gros, quand même, on suit de l'enfance à l'âge mûr l'histoire d'une femme à travers tous ces doubles là et ça. Voilà, donc ça provoque cette impression de kaléidoscope un peu syncopé, étrange, mais il y a des pages très 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 belles, très drôles, et puis avec une volonté de s'intéresser à, comme il est dit quelque part, à des sujets dont on ne parle pas. Donc par exemple, raconter un enterrement de manière avec ce qui peut avoir de drôle, raconter des micro détails, le blues d'une femme qui fait tous les jours promène sa poussette exactement aux mêmes heures et qui croise le postier, et ça la rend un peu dingue. Enfin, il y a des c'est quand même bien.
Hein. Alors, pardon. Pour revenir sur la question initiale, moi je considère en effet que le premier recueil qu'on a pu lire de Lucia Berlin il y a 2 ans, Manuel et l'usage des femmes de ménage, pardon, était vraiment d'une très 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 haute qualité d'un bout à l'autre, ce qui est peut-être un peu moins le cas ici, mais disons que je dirais plutôt que la qualité est moins évidente, parce que vous disiez tout à l'heure, ça passe au loin parfois, et puis ça, une forme de lassitude, mais je pense que justement que c'est un des effets de l'écriture de Lucia Berlin, ça passe au loin, mais c'est aussi sa force justement, c'est dans cette apparente faiblesse, presque rien, et moi c'est vrai que je goûte plutôt ça, parce que vous parlez de jazz, moi j'aurais plutôt tendance à parler de musique répétitive, avec ce que disait Lucille Comeau tout à l'heure, ces thèmes et ces variations, une sorte de fugue comme ça, avec chaque nouvelle est quand même porte tout un monde, qui est un peu le même dans chacune des nouvelles, mais même si on s'y perd ou si on s'y retrouve, c'est parce qu'on a des signes vrais ou faux. Enfin, il y a quand même tout un jeu avec la biographie, à l'évidence. Et c'est un tout petit peu dit, effectivement, dans le très court avant-propos d'un des fils de Lucia Berlin. Mais je pensais aussi, on a parlé il n'y a pas très longtemps dans cette émission du recueil de nouvelles de Lorraine Groff qui s'appelle Floride, qui est aussi quelque chose sur le drame, et une sorte de drame intime, mais qui est une auteure de nos jours. Il y a quelque chose de ça, une sorte d'héritage peut-être de Lucia Berlin dans l'écriture de Lorraine Groff, dans la mesure où, moi, ce que je vois, effectivement, c'est que c'est quand même, ça peint du noir sur du noir, comme disait l'autre, et que c'est quand même très tragique. Moi, je retiens quand même cela.
C'est, Florent Jean Jesco. C'est un peu, j'allais rebondir sur ce que disait Grégoire sur l'image du kaléidoscope. C'est un très bon résumé de ce que je voudrais dire. C'est un kaléidoscope avec trois couleurs. C'est un kaléidoscope qui juste, je trouve qu'elle n'a pas suffisamment de registres, qu'elle n'a pas suffisamment de capacité de varier pour que le jeu du kaléidoscope marche. Et en effet, si vous faites tourner du noir et un autre noir, il y a un moment où le jeu du kaléidoscope vous lasse. C'est un peu ce qui s'est passé pour moi avec ce texte.
Lucille Comeau.
Moi, j'ai l'impression qu'elle se pose à côté de la tradition de la nouvelle et de l'humour noir, qui est une tradition anglo-saxonne, pour le coup extrêmement codée, très pleine, avec des, systèmes. Justement, j'ai l'impression qu'elle écrit en réaction à ce type d'écriture-là. Et que, comme le but, c'est quand même de faire une forme d'humour noir, mais qui lui est propre, elle fonctionne uniquement par trous. Donc, s'il y a des tics, en effet, c'est des formes de trous. Donc, ça peut être un tic,
ça perforte les choses au même endroit.
Oui, tout à fait. C'est une forme de tic.
Ça tient du tic.
Oui, bien sûr. Moi, il y a une nouvelle que j'aime beaucoup, qui n'est pas celle dont vous parliez, sur la, justement, que je trouve beaucoup plus classique, et en effet un peu ratée sur la mort du pilote. C'est une nouvelle qui est au début, de toute façon, je crois que je préfère les premières quand la narratrice est enfant ou quand elle est jeune fille, où elle quitte le Chili et elle prend plusieurs vols les uns après les autres pour aller à l'université. Et on ne sait pas exactement, ça, par exemple, pourquoi elle prend plusieurs avions, pourquoi elle doit descendre à tel état. À prendre un taxi pour se rendre chez une assistante de son père, dont elle se rend compte qu'elle connaît extrêmement bien son père, alors qu'elle-même ne le connaît en fait pas du tout. Tout ça, ça se lit, on comprend pas bien, comme une sorte de compte-rendu de voyage de bord qui paraît extrêmement anodin. Et moi, pour le coup, la fin m'a totalement attrapée. Les quatre dernières lignes, je les trouve absolument poignantes. Donc ça fonctionne précisément parce qu'il y a des trous, et même si les trous sont des tics, dans certaines nouvelles, ça fonctionne très bien. Après, c'est vrai que sur la longueur, on se lasse. Si on les lit comme ça les unes après les autres, on se lasse.
Il y a aussi, on a parlé, je trouve que la langue est assez plate, elle aussi.
Elle est pauvre.
Elle est volontairement pauvre.
C'est une grammaire très
réduite. Elle est pauvre et l'appauvrissement n'apporte pas beaucoup de choses au lecteur. N'apporte pas beaucoup de relief, de vie. Je ne sais pas, d'ailleurs, il faudrait peut-être jeter un œil aux textes originaux.
Valérie Malfoy est une grande traductrice.
Grande traductrice. Dans ce cas, il y a peut-être un problème de langue. Mais est-ce que il faudrait entendre quand même cette langue? On parlait de jazz.
Il y a de la musique.
L'oralité, il y a quelque chose.
Il y a quand même de la musique là-dedans. Elle a quand même un sens du détail. Il y a quand même un sens du rythme. Alors, il y a des effets de rythme qui sont un peu surprenants. Mais non, moi, je trouve qu'il y a de la vie, même dans cette langue pauvre et qui est délibérément pauvre.
Par exemple, moi, je la trouve.
Et après, oui, c'est noir sur noir. C'est vrai qu'il n'y a que des mariages calamiteux. On picole beaucoup. Il y a des gens qui se droguent. Enfin, tout ça n'est pas, a priori, pas très réjouissant. Mais c'est quand même raconté avec toujours une petite distance. Et il y a aussi de l'humour. Il y a des passages assez drôles. Il y a un moment, il y a une fille là qui avant de se débarrasser de sa tante qui a envahi leur maison et qui leur a pourri leur Noël, frissonnante, Maggie salua de la main l'autocollant "La sororité vaincra", et on voit tout le paradoxe qu'il y a dans cette situation. Au moment où elle essaye de se débarrasser de celle qui devrait être sa sœur, elle salue cet autocollant. Il y a plein de choses, petits détails comme ça qui donnent de la vie quand même.
Allez, une dernière prise de parole de Lucille Comeau.
Moi j'aime beaucoup les dialogues. En effet, ils sont extrêmement troués, ils sont pauvres. C'est une pauvreté, mais je les trouve extrêmement convaincants. Il y a un couple, par exemple, qui ne s'entend plus du tout. Elle est à la maison, lui, il rate tout. Il est censé appeler les plombiers depuis des plombes, c'est le cas de le dire, il ne le fait pas. Et il y a cette histoire donc de postier. Ah non, je les confonds en fait. Il y a cette histoire donc de postier, la mère de famille rencontre rencontre tous les jours le postier exactement à la même heure et elle dit, il y a ce postier, Marie dit, facteur. Facteur, il me déprime, un vrai robot. Jour après jour, le même horaire, il a même minuté les feux rouges. Ça me rend triste au sujet de ma propre vie. Mais cette phrase-là, en effet, elle est même pas très syntaxiquement correcte, elle est pas très belle, mais elle m'attrape quelque part.
Allez, lisez par vous-même « Un soir au paradis » de Lucia Berlin, publié chez Grasset, dans une traduction de Valérie Malfoy. D'autres livres à notre sommaire, signés Philippe Roth, Jean-Marie Gustave Leclésio et Martha Hodes.
France Culture. La dispute. Arne Laporte.
Suite de cette dispute avec pourquoi écrire ? Voilà une bonne question. Hein. Posée par Philippe Roth, qui plus est, c'est un recueil, là encore, de textes. Ce soir, on n'a que des recueils. C'est chez Gallimard, plusieurs traducteurs, forcément. Lazare Bitoun, qui était là avec nous. Oui. Parce que nous avons fait une émission spéciale consacrée à Philippe Roth après sa mort. Autre traductrice, José Camoun, et puis Michel et Philippe Jaworski pour ce volume. L'écrivain américain mort il y a un an, on le sait, n'a cessé de jouer entre le réel et la fiction. On va peut-être dire que c'est encore une fois le cas dans cette compilation d'essais, d'entretiens, où il revient sur son œuvre, après avoir annoncé qu'il renonçait à l'écriture. On a l'impression qu'il se livre comme rarement, voire peut-être comme jamais, mais on peut avoir aussi l'impression qu'il joue avec notre crédulité. Mais bon, on va
en
parler.
Pourquoi le croire ?
Première impression, alors, Florent Georgescu.
Dans un de ses textes, un des textes inédits, parce que ouais. il faut rappeler que la dernière partie du recueil est composée de textes inédits en français. Dans un de ses textes, à propos de Portnoy, redit, parle d'un jaillissement d'exaltation émancipatrice. C'est la seule définition à peu près convaincante que j'ai entendue à propos de l'œuvre entière de Roth. Donc même pour ça, on avait besoin de lui pour se définir lui-même.
Grégoire Leménager, votre impression ?
Mon impression, c'est que c'est épouvantable ce livre, parce que ça donne envie de lire et de relire tous les romans de Roth. Et au moment où les livres de la prochaine rentrée littéraire se sont donné rendez-vous de façon assez inquiétante dans mon bureau.
Donc, c'est... Ah, chez vous aussi, alors ?
Oui, mais oui. Oui.
Ah oui ?
Ils sont plusieurs,
alors.
C'est peut-être pas les mêmes.
peut-être une répartition entre les bureaux. Lucille Comeau, sentiment sur pourquoi écrire ?
Moi, je dirais que lire quelqu'un qui sait aussi bien parler de son travail, c'est assez paralysant.
Alors, on va écouter un court extrait d'un des textes de Philippe Roth lu pour nous ce soir par Alexandre Fougeron.
Juif de Newark, pourquoi pas ? Mais juif américain, américain juif, pour ceux de ma génération qui sont nés dans ce pays, ceux qui, dans leur enfance, ont connu l'omniprésent spectacle des diverses fortunes des États-Unis d'Amérique dans les suites d'une guerre planétaire contre la perversion totalitaire, qui ont traversé la puberté au lycée et abordé l'âge mûr à l'université au cours de cette remarquable décennie de redistribution qui suivit la guerre et marqua le début de l'inquiétude qui devait accompagner la guerre froide, pour nous, une étiquette aussi restrictive ne pouvait convenir à ce que nous avions vécu. Nous qui étions en grandissant pleinement conscients d'être des Américains, avec tout ce que cela pouvait signifier. Après tout, nous ne passons pas notre temps à nous extasier devant ce pays et devant cette prouesse qui consiste à alimenter d'une manière si particulière une insensibilité sans égale, une avidité à nul autre pareille, un sectarisme mesquin et un détestable amour pour les armes à feu. La liste de ce que ce pays a de plus néfaste pourrait s'allonger encore, mais voici où je veux en venir. Je n'ai jamais pensé, ne serait-ce que le temps d'une seule phrase, que j'étais un écrivain américain juif ou juif américain. Pas davantage, j'imagine, que Dreiser, Hemingway ou Cheever ont pu penser d'eux-mêmes qu'ils étaient dans leur travail des écrivains américains chrétiens ou chrétiens américains, ou tout simplement chrétiens. En tant que romancier, je me considère depuis toujours comme un américain libre. Alors que je ne saurais nier avoir toujours été conscient des préjugés largement répandus dans ce pays contre les gens comme moi jusqu'à une époque encore récente. Un Américain irrécusable, attentif durant toute ma vie à chacun des moments de la vie américaine. Sous le charme du passé de ce pays, partie prenante de ses drames et de son destin, et que j'écris dans cette langue maternelle si riche dont je suis possédé.
aura reconnu la voix française de Philip Ross et Boris Pinault. Alexandre Fougeron, on l'entendra tout à l'heure en Le Clésio, dans quelques minutes. Bon, revenons à nos moutons et à notre Philip Roth qui a rien d'un mouton. Peut-être un mouton noir, peut-être pour lui. Florent Georgescu, c'est compliqué. Alors c'est moi, je dis tout de suite, j'ai pas tout lu de ce volume.
Il y en a quand même
pas loin de 600 pages, mais j'ai picoré beaucoup, et oui. C'est compliqué de s'arrêter de picorer parce que quand on aime Philip Roth, qui est mon cas et le cas de nombreuses personnes, on a quand même envie de tout lire.
Oui, ou relire, puisque c'est l'occasion, justement, je pourrais commencer par ça, de relire le texte qui est au milieu de ce recueil, qui est ce recueil. Bon, il parle beaucoup de lui, Roth, dans ce livre, mais il fait aussi parler les autres, et il y a workshop, parlons travail en français, de ce recueil d'entretien absolument extraordinaire, que tout le monde doit avoir lu. Alors, c'est l'occasion de rattraper ça, où il dialogue avec Primo Levi, avec Appelfeld, avec Kundera. Anne O'Brien, enfin je ne vais pas citer tout le monde, mais ce sont vraiment des prodiges. Chaque intervention de Roth est la meilleure critique qu'on puisse faire de sur l'œuvre de son interlocuteur. Il fait dire aux gens des choses extrêmement profondes. Ce sont vraiment des moyens à la fois de mieux connaître l'univers mental de Roth, de voir aussi quelque chose de très intime de son rapport à la littérature dans cette manière d'extérioriser ça en le projetant sur l'œuvre d'un autre. C'est vraiment une très belle manière aussi d'entrer dans son œuvre à lui, mais ce sont surtout de très très belles, très beaux portraits, de très belles introductions à ces très grandes œuvres là. Je relisais tout à l'heure l'entretien avec Kundera par exemple, qui est absolument magnifique sur le paradis totalitaire. Je vous laisse découvrir ça, sur le rappel qu'il fait du fait que le totalitarisme, c'est d'abord une promesse de bonheur, d'harmonie universelle, de fusion de tous dans tous. Les éclats de ces esprits assez géniaux, recueillis merveilleusement par Roth. C'est un des aspects de ce livre. Et vraiment, il ne faut pas rater cette occasion de lire ce recueil d'entretiens-là. Mais par ailleurs...
Mais y compris donc, dans ces entretiens, il y a les entretiens, si je puis dire, qui n'existent pas. Avec Malamud, on en avait parlé aussi.
Bien sûr.
En rendant hommage à Roth, qui est quand même celui qui nous a dit qu'il fallait lire Bernard Malamud.
Oui.
Qui est traduit maintenant de façon importante en France.
Exactement, c'est une de ses grandeurs. Mais alors, que dire ? Alors, on peut peut-être en particulier parler, j'imagine, de la dernière partie qui...
Explication. Au pluriel, avec des titres de textes géniaux à chaque fois.
Oui, qui est en recueil...
Commencé par jus ou sauce. Commencer comme ça.
Et le sens même de ce titre est prodigieux. Ouais. D'ailleurs. Alors ça, comment définir ce texte-là, ce jus et sauce-là ?
Ou
parliez
sauce.
De... Ou, pardon, bien sûr.
Oui.
Mais jamais les deux.
Jus ou sauce.
Je suis bête. Et puis c'est vraiment le choix entre deux vies possibles qui est en question. Alors, vous parliez de fiction. Il faut dire que ce recueil est un recueil... Enfin, donc cette partie-là, explication, c'est le recueil d'un genre littéraire assez peu brillant en général, qui est celui des discours de remerciement. C'est souvent un anniversaire, une remise de prix, il en a eu tant.
Plus souvent.
Mais y compris l'anniversaire de Portnoy, d'ailleurs. Oui. Et le texte où il enterre Portnoy des années après, des décennies après, est un des plus beaux du recueil, mais peut-être donc en effet on peut parler un peu de jus ou sauce.
Et on peut faire entendre vos camarades un petit peu.
Parce que par exemple, mais je leur conseille de parler un peu de ça parce que c'est vraiment très intéressant.
C'est ça, Grégoire Le Ménager alors. Vous parlez de ce que vous voulez, hein.
Je parle de ce que je veux,
comme toujours.
Oui, non, mais je voulais dire un mot des entretiens, effectivement, avec les grands écrivains, parce qu'ils sont formidables, et non seulement ils sont très intéressants, mais souvent ils sont drôles. C'est-à-dire que Philip Roth, qui interviewe Mylène Kundera, il commence quand même par cette question. Première question, vous pensez que la destruction du monde est pour bientôt ? Kundera répond. Tout dépend de ce que vous entendez par bientôt, Philip Roth. Demain ou après-demain. Et l'entretien démarre comme ça. Et tout est comme ça. Et bon, donc ça, c'est pour la partie des entretiens qui avait déjà été publiée. Et puis, la dernière partie, effectivement, tous ces discours, ils sont extraordinaires parce que, une des questions qui est posée par ces, d'abord, il nous montre que Philip Roth, qui avait dit j'arrête d'écrire, il a arrêté d'écrire des romans, mais il n'a pas complètement arrêté d'écrire parce que ses discours sont extrêmement écrits et fonctionnent comme des nouvelles quelquefois d'inspiration autobiographique dans lesquelles Philip Roth, citoyen américain, joue avec la figure de Philip Roth romancier, joue avec les doubles littéraires qu'il a mis en scène dans son œuvre, et c'est formidable. Et au fond, la question que posent tous ces textes, c'est celle qui est posée par Wikipédia, puisque à l'intérieur de ce livre, il y a la version intégrale de sa fameuse lettre ouverte à Wikipédia, qui commence par « Cher Wikipédia, je suis Philip Roth », puisqu'il raconte qu'il a... il raconte qu'il avait voulu corriger une notice Wikipédia consacrée à l'un de ses romans et que Wikipédia lui avait répondu « Vous ne pouvez pas, puisque vous n'êtes pas une source crédible pour modifier les... » Donc la question qui est posée, c'est: est-ce que Philip Roth est crédible quand il parle de Philip Roth et de l'œuvre de Philip Roth? Et ce n'est pas toujours évident. Et
non, parce que du coup, il nous explique, contrairement à ce que dit Wikipédia, qui prétend que Portnoy est né de l'histoire arrivée à quelqu'un, lui nous raconte, Philip Roth, qui est arrivé à quelqu'un d'autre. Et donc, il va nous raconter cette histoire.
Ouais. Mais au passage, il donne évidemment beaucoup, beaucoup de clés sur la jeunesse de ses romans, etc. Ouais. Et qui sont absolument passionnantes quand on a lu ses romans ou quand on...
Et une réponse aussi sur le rapport de Zuckerman au judaïsme. Wikipédia fait une inversion totale, en réalité, du sens des livres de Zuckerman.
Et puis, quand je dis des nouvelles, je termine juste sur cette nouvelle dont vous parliez tout à l'heure, Jusos, je crois que c'est celle-ci, donc, où il raconte, on peut le dire aux auditeurs, quand même, pour résumer, il raconte qu'un jour, quand il était jeune, il s'est retrouvé dans un restaurant et qu'il y a eu une feuille de papier qui a atterri sur sa table, il sait pas très bien pourquoi, et sur laquelle il y avait une suite de phrases qui n'avaient aucun rapport entre elles, et que finalement, il a compris il a fini par comprendre ce qu'il fallait qu'il fasse de cette feuille, et il a utilisé chaque phrase comme première phrase de chacun de ses 31 romans tout au long de sa vie. Et il raconte ça d'une manière tellement sérieuse et avec un pack de lecture qui est totalement autobiographique qu'on a vraiment l'impression qu'il nous raconte un souvenir. Et au bout d'un moment, on comprend qu'il se fiche de nous, mais on ne le comprend pas tout de suite. Et ça crée quelque chose de très drôle et de très révélateur de son art. Ouais.
Lucille, comment ?
Oui, c'est assez passionnant. Il y a vraiment une tension qui est propre à l'autobiographie quand même dans ce livre. Je pense à un des entretiens qu'il a eu avec Primo Levi, donc c'était en 86. Et il lui parle beaucoup, beaucoup. On a l'impression d'ailleurs que Primo Levi en a un peu ras-le-bol de la fabrique de peinture dont il a été directeur pendant longtemps et qu'il lui fait visiter. Et ça intéresse énormément Philip Roth. Et c'est assez révélateur du fait que les écrivains américains, et Philip Roth le premier, considèrent vraiment l'écriture comme un artisanat, comme un métier. Et que du coup, c'est facile, évidemment pas, parce que c'est un leurre. Mais on peut mettre en place une critique de soi qui passe par une exposition de ses techniques. Il le fait, mais c'est même assez vertigineux la manière dont il parle, à quelques années après la publication de Portnoy, de son propre ouvrage. Moi, je n'ai jamais vu ça. Je ne sais pas qui d'autre sait faire ça mieux que lui. Alors, pour le lecteur européen, il y a quelque chose de presque gênant à voir trop la coulisse. Dans un premier temps, on peut imaginer qu'on va être désillusionné par rapport à l'œuvre de Roth. Moi, ça me fait un peu cet effet-là. Mais évidemment que tout ça est faux et que la fameuse préface qui se termine quasiment par le pacte rousseauiste, « Je vous donne tout, je suis à nu, intus et incute », mais évidemment que c'est un leurre, évidemment que c'est une fiction. Et à partir de là, tout est lisible à double sens, comme cette nouvelle qui est en effet une nouvelle. C'est fou.
C'est sans doute le dernier texte de fiction de Roth, d'ailleurs. Parce que c'est réellement une nouvelle, en effet. Enfin, il s'en cache pas, et je ne sais pas s'il y en a eu d'autres après.
Oui.
Enfin voilà, c'est
un peu de temps. Allez, enchaînez, vous avez plein de choses à dire et le temps file.
Mais le comment dire, il y a tout ce que vous venez de dire, Lucille, sur lui-même, sur ses techniques, une manière d'analyser son œuvre en effet extraordinaire, mais il y a aussi quelque chose qui va qui touche à la source de sa puissance créatrice, notamment. Ce que je disais quand il parle de la puissance émancipatrice et de cette sorte d'ébullition qu'a représenté Portnoy, ce livre en tout, chaque fois qu'il parle de lui, en tout cas, montre à quel point c'est un grand écrivain, parce que c'est quelqu'un qui a atteint un point de liberté absolue, qui a réussi à se libérer entièrement de toute contrainte, de toute idée préconçue de ce qu'il devait écrire. Justement, la nouvelle Jus ou sauce joue avec ça, joue sur cette indéterminée, parce qu'à la fin, il dit que se serait-il passé si ce papier avait été jeté par le garçon, qu'aurait été mon œuvre, est-ce que j'aurais eu une œuvre, tout était possible. Et ce recueil montre à quel point tout lui a été possible, parce qu'il avait cette liberté absolue qui tient à un regard sur les choses, qui tient à une manière de ne jamais être enfermé. Donc, encore une fois, dans quelque idée que ce soit, c'est le contraire d'un écrivain à idée, c'est un écrivain à regard, un écrivain à force imaginative, mais à regard en particulier. On peut parler aussi dans les sources autobiographiques de son œuvre qui sont importantes dans ce livre de ce qu'il dit sur son père.
Il y a un texte extraordinaire où il dit que c'est pas lui qui devrait recevoir le prix, mais son père. Et là,
le prix de New York.
Extraordinaire.
C'est le portrait de son père
est extraordinaire,
magnifique sur et particulièrement je crois que ça je rebondis aussi à ce que vous disiez sur Primo Levi, il a par ailleurs il a un réel goût pour les autres métiers que
les métiers très concrets,
les choses, le rapport, une manière d'entrer dans la réalité sociale, d'entrer dans la vie des gens par autre chose que l'écriture, qui est un modèle pour l'écrivain qu'il est. Et en l'occurrence, c'est le cas du métier de son père, qui était qui est quelqu'un qui a toute sa vie placé des contrats d'assurance vie chez les habitants du New Jersey. Et il a une sorte de lyrisme dans la description de ce métier-là, qu'il faut prendre, je crois, absolument au sérieux, qui n'est pas une ironie ou un jeu avec...
J'allais dire, c'est la nouvelle, mais c'est le texte qui constitue le patrimoine.
Exactement, patrimoine. Où il montre que son père, qui est entré dans le foyer de milliers de gens en quelques décennies, est celui qui connaît le mieux la nature humaine, et bien au-delà de ce que lui a pu connaître en tant qu'écrivain. Mais pourtant, il y a un effet miroir entre cette affirmation parfaitement sincère de la supériorité du métier d'assureur sur le métier d'écrivain pour connaître la nature humaine. Mais cette affirmation-là est aussi une définition esthétique. C'est aussi ce qu'il a fait, lui. Il est allé partout, il a refusé toute porte, tout mur, il est entré partout. Et peut-être un dernier mot sur un autre aspect qui ressort beaucoup du recueil, rapidement, parce qu'on en a déjà parlé à propos de Wikipédia, c'est le malentendu. En permanence, quand il parle de son œuvre, il doit chasser autour de lui toutes les formes de malentendus. On a dit tout et absolument n'importe quoi. Je le dis.
Antisémite, misogyne. Mais il y a réponse à tout.
Pro-juif, antisémite, misogyne, obsédé par les femmes. Tous les contraires ont pu être dit.
On les trouve au fond, juste ou pas, ces réponses.
Ce qu'il montre, c'est que sa vie d'écrivain est un combat contre l'ensemble des malentendus, parce que la vérité est tout à fait indéfinissable. Et justement, seul lui arrive à se définir.
Grégoire Leménager.
Oui, un dernier mot rapide. Ce qui frappe, c'est son intelligence extraordinaire. Et en même temps, et ça, je pense que ça prolonge ce que dit Georgesco, une forme d'humilité qui est quelque chose d'assez frappant. C'est-à-dire que dans sa présentation de Primo Levi, il dit cette phrase qui a l'air d'être une blague. Les écrivains, c'est moins étonnant qu'il n'y paraît, se divisent comme le reste de l'humanité entre ceux qui écoutent et ceux qui n'écoutent pas. Et lui, effectivement, on voit, il raconte une soirée extraordinaire avec Saul Bellow et Appelfeld qui se mettent à parler en yiddish.
Lui ne comprend pas.
Lui ne comprend pas.
Avec la femme de Saul Bellow.
Lui ne comprend sans doute rien à cette conversation. Il néanmoins raconte cette soirée admirablement et écoute tout ce qu'ils disent. Et enfin, il y a une interview dans laquelle on lui demande de s'il a relu tous ses livres. Il dit oui, j'ai relu tous mes livres. Et au fond, je vais vous citer, je ne sais plus quel sportif qui avait résumé sa carrière.
Joey Louis, je crois, le boxeur.
Mots. J'ai fait de mon mieux avec ce que j'avais. Et je crois qu'il y a une vraie forme de sincérité là-dedans. Et pour autant, il est très conscient de la valeur de son œuvre, mais il y a une forme d'humilité.
Bon, il y a beaucoup de choses dans ce livre à lire. Pourquoi écrire ? Parce qu'il y a tous ces entretiens, qui est quand même aussi une très très grande part de ce petit volume chez Folio, gros volume chez Folio, donc tout à fait accessible. Pourquoi écrire de Philippe Ross chez Folio, Gallimard. Traduction Lazare Bitoun, José Camoun, Michel et Philippe Jaworski. C'est l'heure de votre coup de cœur, Florent Georgesco, pour La femme du capitaine, guerre, amour et race dans l'Amérique du 19e siècle de Martha Hoge chez Anacharsis. De quoi s'agit-il? Alors,
comme le sous-titre l'indique, et comme traduction de Julia Burtin. Très belle traduction d'ailleurs. Martha Hoge est une historienne de l'Université de New York. Donc ce n'est pas un livre de fiction, c'est pourtant une histoire absolument extraordinaire, celle de Nice, Nice Richardson, qui naît en 1831 en Nouvelle-Angleterre, aux États-Unis. C'est une femme d'un milieu pauvre, ouvrier, blanc. Elle commence dans la vie en faisant des tout petits boulots. Elle épouse un menuisier, mais qui ne trouve pas de travail, qui finit par s'exiler dans le sud. Elle le rejoint là-bas. Il trouve d'ailleurs toujours pas de travail, mais il se trouve que la guerre de sécession commence. Il est embarqué dans les armées sudistes. Sauf que les propres frères de Nice, eux, sont dans l'armée nordiste. C'est pas facile. Elle doit retourner dans le nord. Elle y retourne toute seule, ce qui est déjà à cette époque un signe de liberté assez extraordinaire. Elle n'a pas de nouvelles de son mari. À la fin de la guerre, il meurt. Elle apprend qu'il est mort il y a longtemps déjà. Elle est dans une misère noire. Quelques années passent et elle épouse Smiley Connolly, qui est un navigateur noir et riche. Elle l'épouse. Ils partent ensemble aux îles Caïmans. Ils ont une grande maison au bord de la mer. Tout est merveilleux. Tout à coup, cette femme extrêmement pauvre à une vie délicieuse. D'autres drames arrivent et surtout, en 1877, il y a un immense ouragan qui ravage les Antilles, enfin les Caraïbes plutôt. Ils sont sur un bateau à ce moment-là. Ils meurent tous les deux en mer. Fin de l'histoire. Cette histoire-là, je ne vous ai rien divulgaché parce que l'auteur la raconte en une page. C'est un livre d'histoire. Ce qui compte, c'est comment tout cela se passe et c'est surtout comment l'historienne obtient tous les renseignements sur cette vie, et ce livre est une enquête absolument passionnante. Il se trouve que les lettres de la famille de Nice ont été conservées dans la famille, peu à peu, et puis ça atterrit dans une université américaine où cette historienne qui faisait des recherches justement sur les mariages mixtes au 19e siècle a trouvé ces 500 lettres où toute la famille se parle énormément, où il y a une centaine de lettres de Nice elle-même. Et cette vie absolument extraordinaire, simple, et extraordinaire, représentatif de l'histoire de son siècle, des États-Unis dans son siècle, et en même temps signe d'une liberté chez une femme de cette époque absolument féroce. Cette histoire-là devient incarnée, devient extrêmement présente. Elle ressuscite, si vous voulez, Eunice. Et cette entreprise-là, c'est ce qui fait de l'histoire, des livres d'histoire, de micro-histoire en l'occurrence, comme on dit, une aventure littéraire en soi. Donc je voulais en parler ici. On parle beaucoup de littérature. On aime bien sortir du roman comme genre unique. Franchement, lisez ça parce que c'est un moment extraordinaire et c'est en même temps un objet de connaissance, de savoir absolument merveilleux.
La femme du capitaine, guerre, amour et race dans l'Amérique du 19e siècle de Martha Hoge chez Anacharsis. La traductrice Julia, m'avez-vous dit ?
Burtin.
France Culture, la dispute. Ne la porte.
Dernier livre à notre sommaire, 15 causeries en Chine, aventure poétique et échange littéraire. C'est un recueil de causeries donc de Jean-Marie Gustave Le Clézio chez Gallimard, un titre qui nous dit de quoi il s'agit. Ces causeries ont été données entre août 2011 et octobre 2017. Les textes ont été réunis recueillis par Xu Jun, qui signe également l'avant-propos du livre. Xu Jun, c'est l'ami exemplaire, comme l'appelle Le Clézio, en postface. C'est le premier à l'avoir traduit en chinois, celui qui a permis, je cite encore Le Clézio, une réelle approche intellectuelle et affective de la Chine, dont la culture et la civilisation fascinent depuis bien longtemps le prix Nobel de littérature. Premier sentiment, Grégoire Le Ménager.
On a affaire à 15 variations sur un même oxymore, qui est quelque chose de compliqué à appréhender, qui est la question de l'universalité très particulière qu'offre la littérature.
Lucille Como.
Il y a un mot, lunaire.
Bon, Florent Georgesco.
Le même. Je suis aussi pour la paix dans le monde, pour le dialogue des cultures. Je suis d'accord avec chaque chose de cette doctrine-là. Je ne comprends donc pas pourquoi je m'endors chaque fois que j'ai à lire Le Clézio.
Alors, vous allez pouvoir faire une mini-sieste, parce que cette fois, c'est bien Alexandre Fougeron qu'on va entendre lire un extrait de ses causeries.
« l'on s'interroge souvent sur la mondialisation de la culture et sur la défense de sa propre culture par rapport à celle des autres pays. Certes, l'amour de sa patrie est un sentiment admirable qui a inspiré de nombreux écrivains et artistes. Mais la diffusion des livres étrangers par les traductions est un sang nourricier pour sa propre culture. Car toutes les cultures sont le résultat de rencontres et d'échanges. Et parce qu'une culture pure serait une culture anémique. Lao Tse, Cervantes, Shakespeare appartiennent à toute l'humanité. Et seuls les livres nous permettent cette exploration. Cette culture n'est pas menacée par les autres cultures, bien au contraire. Qui ne connaît que sa propre culture, ne connaît qu'une part de cette culture. Ainsi, le rôle des livres dans cet échange est aujourd'hui planétaire. Et c'est sans doute la plus grande entreprise qu'ait jamais projetée l'humanité. Elle a pour but principal l'universalité du savoir.
Voilà, c'était l'une des variations de ces 15 causeries, Grégoire Le Ménager.
Oui, mais...
La
table des matières est intéressante. Non, mais j'entends bien les ricanements qui arrivent. Et évidemment, le Clésio a un ton un peu sentencieux pour dire des choses qui peuvent sembler quelquefois assez simples et évidentes. Il a le mérite en général de les énoncer assez clairement. Et quelquefois, ce sont des choses qu'il n'est pas si simple d'énoncer clairement. Mais écoutez, moi, la table des matières est intéressante. Il propose de se poser des questions comme celle de l'universalité de la littérature, des rapports entre littérature et mondialisation, entre l'imagination et la littérature, la nature et la littérature. Moi, j'ai vu passer ça, je me suis demandé ce qu'il allait raconter aux Chinois, et donc j'ai proposé qu'on inscrive ce livre au programme. Par ailleurs, le Clésio est l'auteur de quelques grands romans quand même. C'est pas tout à fait n'importe qui. Alors... La table des matières indique une forme de diversité des thèmes. C'est vrai qu'il y a une monotonie qui s'installe, parce qu'il cite un peu toujours les mêmes exemples. Il cite en particulier cette phrase d'Oscar Wilde, qui en même temps est géniale, qui dit que la littérature doit être parfaitement inutile, et que les deux termes sont aussi importants l'un que l'autre.
C'est vrai qu'Oscar Wilde revient souvent, moi c'était surpris. Pas seulement pour cette phrase, hein. Je savais pas qu'il avait un goût pour cette phrase.
Il y en a une autre qui est très drôle, Wilde. J'ai plus en tête, mais malheureusement.
Peut-être parce qu'il est très connu en Chine, peut-être Oscar Wilde. Non, mais on se dit que voilà, c'est adressé, hein.
Ouais,
il y a beaucoup de citations d'auteurs chinois que je ne connais pas, hélas.
Oui, par ailleurs, ce sont des conférences qu'il a faites devant un public chinois, qui sont donc il brasse certaines formes de généralité. Ça reste un discours qui est assez général, qui est celui du cours magistral, enfin qui est un discours professoral. Alors il y a aussi des éléments d'autobiographie qui sont pas tout à fait intéressants. Bon, alors son enfance privée de livres à Nice, il l'a déjà raconté, mais il la raconte toujours assez bien. Sa découverte de la Chine, l'attrait qu'il a éprouvé pour la Chine, il en parle, c'est pas inintéressant. L'époque où il était lecteur de manuscrits dans une maison d'édition française. Bon, je crois qu'il avait pas, tellement raconté ça, et il en tire quelques leçons sur ce qui oppose les livres publiés et les livres non publiés. On retrouve son anticolonialisme qui est viscéral, qui a ses aspects un peu caricaturaux, mais qui a aussi des aspects sympathiques. Et puis, moi, ce à quoi j'ai été le plus sensible, c'est parce qu'il est obsédé par la question de l'interculturalité. On comprend pas toujours très bien ce que ça veut dire. Mais en fait, ce sur quoi il s'interroge, c'est la question de l'universalité de la littérature. Et je trouve que ça, il le pose vraiment d'une manière très très ferme, très claire et très intéressante, quand il explique que il y a quelque chose de très paradoxal dans l'universalité de la littérature, parce que la littérature, c'est toujours, et ça ne vaut et ça n'est de la bonne littérature que quand c'est très ancré, que quand c'est le reflet d'un lieu et d'un temps, et que c'est donc la bonne littérature, c'est celle qui est là. Et Roth dit la même chose d'ailleurs, hein, il dit exactement la même chose, la bonne littérature est celle qui est très particulière et qui n'apporte pas de réponse mais qui pose des questions, et il nous montre que c'est quand elle est particulière qu'elle devient universelle. Et ça, je trouve
là, il cite Proust généralement,
et il cite un peu Proust aussi.
Non mais
je trouve qu'il
illustrer cela,
je trouve que ça lui fait bien, voilà, mais je m'arrête là. Pour
l'instant. Alors, Lucille Comeau, tout à l'heure, a dit lunaire.
Oui.
Qu'est-ce que ça veut dire, en fait, ça, lunaire?
Ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que c'est adressé. Donc, c'est la vision de Le Clésio de la littérature adressée à un public chinois. Bon, moi, clairement, là-dedans, ce qui m'intéresse, c'est la deuxième partie. Et ça suppose donc de supporter un niveau de... je vais pas dire bêtise parce que c'est insultant, mais quand même il y a des raccourcis sur l'histoire littéraire qui font frémir. Enfin, c'est incroyable.
Exemple
en trois lignes, c'est le sens du tragique de Ulysse dans l'Odyssée à Madame Bovary. Enfin, je sais même pas comment décrire ça parce que c'est incroyable.
Je vois.
Voilà. Alors donc, l'idée, c'est de se remettre en permanence en tant que lecteur de ce type de texte dans la situation d'énonciation qui est, oui, en effet, c'est adressé à un public chinois. Donc, est-ce que ça explique ou justifie quelque chose du côté sommaire et du côté un peu lénifiant du discours? Ça, c'est pas inintéressant parce que ça crée une forme de tension. Sauf que du coup, ça rentre totalement en contradiction avec le fond de son propos, si je l'ai compris, qui est cette notion d'interculturalité, qui est la question de l'universalité de la littérature. C'est-à-dire que si nous, en tant que lecteurs, on doit tout le temps historiciser les discours, se rappeler dans quelle situation d'énonciation ils ont été écrits, ça contredit absolument le fait que la littérature soit un objet partageable, partagé, infiniment désirable pour tous de la même manière. On est en train de relativiser en permanence la portée de ce que le Clésio est en train de dire. Donc ça, en fait, il s'auto-sabote. Par ailleurs,
c'est l'édition de ce livre qui l'auto-sabote.
Oui, la littérature contemporaine, entre parenthèses, Camus, Sartre et Beckett, ça a été écrit en 2013. En fait, on a l'impression de lire, d'avoir accès à la pensée d'un homme, mais qui est outre-tombe. Il y a presque un côté tragique là-dedans. Ça, c'est écrit dans cette décennie. Il fait référence à l'Internet, il fait référence à la mondialisation, entre guillemets. Mais tous ces concepts sont complètement inactifs. Ça n'a, en fait, les concepts qu'il expose, tous ces concepts que vous avez cités, l'interculturalité, la circulation universelle comme vecteur de paix, en fait, ils ne font pas sens dans le monde d'aujourd'hui. Ça n'a aucune ni acuité, ni aucune action possible, ce type de texte. Et je crois que c'est ça qu'ils voulaient faire, donc c'est un peu dommage.
Jean-Georges Esco.
Il pourrait avoir de l'acuité s'ils avaient du contenu. Le problème est qu'ils ne disent que de grandes généralités qui n'ont strictement aucun contenu, qui ne disent rien de particulier, qui sont... on parlait tout à l'heure des recueils de discours de remerciement de Roth qu'il élève en genre littéraire. Là, on a un recueil de toasts dans des rendez-vous diplomatiques, quoi. Et c'est-à-dire qu'on trouve l'harmonie entre les peuples à condition de ne rien dire. Enfin, on est vraiment dans l'exercice diplomatique plutôt de bas étage où on va nous démontrer qu'on est pour la paix dans le monde en ne parlant de rien. Et autre chose, puisque je saute tout de suite à ça parce que je vois qu'on n'a plus beaucoup de temps. Enfin, il y a par ailleurs quelque chose d'extrêmement gênant au-delà du ridicule de ce livre. Ça se passe en Chine, en effet. Il est d'une complaisance envers le pouvoir chinois qui, au demeurant, le paye. Puisqu'il s'agit très souvent de cours qu'il donne dans des universités chaque année en Chine. Il est conseiller de certaines universités, au moins en Chine. On est là devant quand même quelque chose d'un peu embêtant. On a un grand écrivain français, un prix Nobel, qui, de fait, sert la propagande d'un État autoritaire ou totalitaire. Pendant ce temps, il y a quand même des choses qui se passent dans ce pays. Pendant ce temps, il y a des gens qui sont en prison pour des raisons politiques. Il y a des minorités qui sont persécutées, qui sont torturées. Lui, il ne dit rien. Il n'y a pas un mot dans tout cela. En effet, il est question à un moment, à plusieurs moments de son anticolonialisme. Son préfacier chinois, le professeur chinois qui fait la préface, qu'il invite dans beaucoup de ses réunions, dit le Clésio est un grand humaniste, il est très opposé à la colonisation. D'ailleurs, il m'a souvent dit à quel point il condamnait l'invasion de la Chine par le Japon au début du XXe siècle. Et le Tibet, ça ne l'embarrasse pas un mot. Et même, il est extrêmement complaisant, il dit souvent « la Chine aujourd'hui, c'est merveilleux ». Il dit « le plus grand mal de la France et de l'Occident, mais la Chine, il n'y a jamais la moindre critique ». Il n'évoque jamais, il n'y a pas le mot « Tiananmen » dans ce livre. Ouais. Il n'y a
mais aucune évocation. Parce que ce n'est pas le lieu pour l'énoncer. Et je ne comprends pas, moi, c'est plutôt la publication de ce recueil en France.
Mais enfin,
ça ne m'embarrasse
pas quand même que si ça m'embarrasse, type aille servir la soupe à un État totalitaire.
Je suis entièrement d'accord avec vous, mais je voudrais que Grégoire Le Ménager le temps de répondre.
Une dernière chose
très rapide.
À un moment, il dit la votre révolution culturelle, mai 68 plutôt, notre révolution culturelle. Mai 68, la révolution culturelle, c'est, selon certains historiens, 1 million de morts. De qui se fout-il ?
Grégoire Leménager, pour finir sur ces 15 causeries.
Je parlais de son anticolonialisme viscéral.
Laissez parler Grégoire.
Clésio éprouve une forme de détestation des crimes commis par l'Occident qui fait qu'il y a un peu de poids de mesure dans sa...
Ça l'aveugle par ailleurs.
Je suis tout à fait d'accord. Quand il tient ce genre de propos en Chine, en saluant la Chine, parce que la Chine est un pays où la littérature et la poésie ont toujours eu droit de citer, c'est vrai que c'est extrêmement gênant, surtout quand dans le passage d'après, il va tacler Barack Obama pour je ne sais plus quelle bricole. Donc ça, effectivement, c'est très gênant.
Mais
ça, c'est quelque chose qui est un peu constitutif de sa vision du monde et c'est quelque chose qui est un peu...
Dégoûté très profondément de sa vision du monde.
Florent, on arrive à la fin de l'émission. Je vais avec Grégoire et le dernier mot. Je voulais demander.
Le dernier mot.
Il est trop tard, presque.
Je sais plus où j'en étais, moi, avec tout ça. Écoutez, non, le Clésio a eu le prix Nobel. Son œuvre est étudiée dans le monde entier.
Quand je pense qu'on ne l'a pas eu.
Florent, vous avez dit que c'était votre dernier mot tout à l'heure. Bon, on s'arrête là. Allez,
Son éditeur publie ses causeries en Chine comme un post-scriptum à son œuvre pour les gens que son œuvre passionne. Je trouve pas ça choquant. Ça a une valeur documentaire aussi après les
valeurs commerciales peut-être aussi pour ses 15 causeries en Chine de Jean-Marie Gustave Le Clésio chez Gallimard. Le jeu de la dispute, on va aller très vite avec vous, Joséphine Dumoulin. On va carrément passer à la question de ce soir, hein, parce qu'on n'a plus le temps. On fait gagner des invitations pour le spectacle « Dans ces casas » de Morad Merzouki et Kader Attou à la Grande Halle de la Villette. Des places à gagner pour le 19 juin à 20h. La question, Joséphine.
Quel collectif artistique créé en 1989 lança la carrière des danseurs et chorégraphes Morad Merzouki et Kader Attou ?
Votre réponse avec vos coordonnées postales à envoyer à auditeurfc@radiofrance.com. Cette émission a été préparée par Issa Tundoy, Lucille Como, Boris Pinault, Joséphine Dumoulin, prise de son Valentin Bobinet, réalisation Alexandre Fougeron. Demain à 19h, une dispute consacrée aux séries. On sera en public au Bel Air, le bar de la maison de la radio. Avec Mathilde Serrel, Iris Bray, Joseph Gauss, nous parlerons de Fleabag, de Mouche, de jeux d'influence. Il y aura un coup de cœur de Joseph Gauss pour Tchernobyl et puis un petit salon de Boris Pinault pour une fois sur la fin des séries.